Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Merci de nous rejoindre pour notre entretien hebdomadaire. Plusieurs sujets aujourd'hui et on va commencer avec ce sujet de société hein, qui nous concerne évidemment tous. C'est le projet de loi sur la fin de vie. Lundi 28 avril, les députés ont repris leurs échanges en commission au sujet de la proposition de cette proposition donc de loi sur la fin de vie. Et ils ont approuvé l'un des articles clés de ce projet de loi. Il s'agit de définir des critères qui permettent aux malades de recourir à l'aide à mourir. 5 critères sont en cause, en question. L'âge, avoir au moins 18 ans, être français ou résident en France, être atteint d'une affection grave, incurable et qui engage le pronostic vital, subir une souffrance physique ou psychologique impossible à soulager avec des traitements. Et le 5e critère, être apte à exprimer sa volonté de mourir, apte voulant dire de façon libre et éclairée. Voilà où on en est avant l'examen en séance à partir du 12 mai de ce projet de loi. Avant le 12 mai toutes ces informations que nous avons depuis le lundi 28 avril, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux députés ou du moins comment avez-vous envie de réagir à cela, Monseigneur Mika ?
D'abord, j'espère bien que seront distingués les deux projets de loi ou les deux textes, celui sur le renforcement des moyens donnés aux soins palliatifs d'un côté et puis celui de le projet de loi dont vous parlez sur l'aide à mourir. Parce que dans la législature précédente, il n'était pas question de séparer les deux. Ainsi, les députés étaient obligés, pour augmenter les moyens donnés aux soins palliatifs, d'approuver le projet de loi de fin de vie, puisque ça ne faisait qu'une seule et même loi. Là, de distinguer les deux textes, ça permet de traiter deux sujets évidemment corrélés, mais quand même très très distincts, de manière distincte. Bon. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. La seconde, c'est que je trouve, dans notre foi, dans notre réflexion sur le sens de la vie, la valeur de la personne humaine, le projet de loi en question sur la fin de vie, on comprend la souffrance des gens, on comprend que des gens souhaitent mourir la manière la plus confortable possible, très bien. Mais qui va évaluer une souffrance, dans les critères que vous venez d'évoquer, une souffrance physique ou psychologique qu'aucun traitement ne peut atténuer. Une souffrance psychologique qu'aucun traitement ne peut atténuer. Enfin, vous voyez bien, c'est quand même très compliqué. Une souffrance psychologique, elle s'évalue comment ? Et elle se traite par un traitement médical ou par quoi ? Enfin, un critère de la liberté, aucune pression, en toute liberté, conscience éclairée, très bien aussi, évidemment. Mais dans une société qui met une pression pas possible, qui conditionne les gens d'une façon extrêmement impressionnante, il y a quand même beaucoup, beaucoup de critères qui sont au fond extrêmement subjectifs et qui m'inquiètent profondément.
Est-ce que vous avez l'occasion d'échanger avec les députés ou est-ce que c'est le rôle, la responsabilité peut-être d'un évêque d'envoyer un petit courrier, de passer un petit coup de fil aux députés pour dire écoutez, moi j'aimerais bien qu'on discute avant que vous soyez à l'examen en séance de ce projet de loi, j'aimerais bien qu'on échange. Est-ce que ça c'est votre rôle ? Est-ce que vous pouvez le faire ?
Alors on peut le faire et même je dirais on doit le faire. La réapparition de ce projet de loi est extrêmement rapide et on n'a pas eu le temps de mettre en place cela. Mais précédemment, je l'avais fait, j'avais écrit à nos députés et sénatrices pour transmettre des documents de réflexion et puis inviter un échange. Et il n'y a pas eu de suite à cet envoi de courrier.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas répondu.
C'est ça.
Peut-être qu'on peut s'adresser aux personnes malades, parce que dans cette réflexion autour du projet de loi, on parle des députés, on parle souvent des soignants aussi. Plaçons-nous peut-être du côté des malades, peut-être les consoler ou les accompagner.
Si les malades en question sont des croyants, des disciples du Christ, eh bien il faut aussi aborder les choses. Alors évidemment, c'est très difficile à... C'est facile de parler quand on est en bonne santé, qu'on va bien, etc., au nom de ceux qui ne sont pas dans cette situation. Mais c'est en ayant pleine conscience de la limite de ce propos ou de cette approche que malgré tout je dis ce que je dis, à savoir que la foi porte sur l'être humain et un regard qui ne vient pas de l'homme, qui ne vient pas d'un consensus des humains entre eux pour déterminer que celui-ci vit dignement et que celui-là ne vit plus dignement. temps, mais qui vient de l'accueil du regard de Dieu sur l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Et dans la foi, nous devons entrer dans ce regard-là. Et donc, ce qui fonde la dignité de la personne humaine, ce n'est pas une détermination qui vient des hommes qui s'entendent entre eux pour décider que jusque-là, c'est digne et qu'à partir de là, ça ne l'est plus. Mais la dignité de la personne humaine, elle vient de son origine divine. Et quand on est croyant, c'est de là qu'il faut partir. Et donc, accepter de convertir aussi, au nom de ce regard qui vient de Dieu, accepter de convertir nos propres manières de penser, de ressentir les choses spontanément. Parce que ce n'est pas sûr que cette manière spontanée qui vient de nous soit réellement inspirée de Dieu. Et donc, voilà, de manière, par principe, il faut qu'on ait toujours le souci de partir du regard de Dieu. Alors, après, il faut évidemment considérer la souffrance des personnes, la situation de chaque personne, de chaque famille, que sais-je, mais pas pour relativiser quelque chose qui vient de Dieu et dans lequel nous devons entrer dans la perception de la personne humaine, de sa dignité, quel que soit son âge, sa situation de santé, sa situation sociale et que sais-je. Sinon, c'est entrer dans quelque chose qui nous met, nous, au centre, c'est quelque chose à voir avec le péché originel, au fond. C'est nous qui déterminons ce qui est bien ou mal pour nous, et non pas l'accueil de cela dans la foi, même si notre raison, à un moment, cale et ne comprend pas tout ce que la foi nous donne de recevoir. Alors, c'est une question de fond extrêmement grave, extrêmement importante, et qu'il faut aborder avec la conscience de la gravité.
Voilà, et on peut saluer des personnes qui sont vraiment des chevilles ouvrières dans cette réflexion de manière très discrète. Ce sont tous les bénévoles qui vont à la rencontre des personnes malades dans les hôpitaux, dans les EHPAD, à domicile, et qui sont coordonnées par la pastorale de la santé, mais qui ont vraiment ce regard de Dieu sur les personnes malades.
Elles mettent en œuvre de manière très concrète au quotidien cette parole de l'Écriture « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Et quand on signifie cela à quelqu'un, non seulement par des déclarations de principe, mais par une présence, par des gestes, par un regard, par un contact, par une présence aimante, toute simple, mais ça change réellement la vie de l'autre et la perception de sa vie, de sa dignité, de son poids ou pas de son poids et de son espérance.
Merci pour ces mots, Monseigneur Mika. Alors, on continue. Au moment où nous enregistrons cette interview, vous vous apprêtez à vivre la journée du presbytérium avec les prêtres ou quelques prêtres du diocèse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette journée, à quoi ça sert et puis les sujets abordés? Est-ce que c'est une journée où vous décidez de l'avenir du diocèse?
Le conseil du presbytérium, conseil presbytéral, est un des conseils de l'évêque, un des conseils canoniques obligés par le droit de l'Église de l'évêque, qui est constitué donc d'une délégation de prêtres qui œuvrent dans le diocèse. Alors, en fonction des statuts, des conseils, c'est un prêtre par tranche d'âge, ou un prêtre par territoire, ou un prêtre par réalité missionnaire particulière. Dans notre conseil, à nous, on veille à ce que le sanctuaire soit représenté, que les prêtres aînés soient représentés, que les jeunes soient représentés, etc., etc. Donc c'est un conseil constitué d'une bonne vingtaine de prêtres, tous âges confondus, et qui se réunit au minimum 3 fois par an sur des sujets préparés par le bureau du conseil, qui est un bureau élu par le conseil une fois qu'il est constitué, et des sujets qui ont trait à la vie de l'Église et à la vie du diocèse et de son actualité. Alors, pour ce qui nous concerne en ce moment, eh bien, c'est la réforme engagée, la refonte un petit peu à la fois du territoire diocésain, de la manière de le servir, que des différents services du diocèse, et d'améliorer le fonctionnement organique de tout cela, parce que l'Église diocésaine est un corps et qui a besoin de se refaire une santé de temps en temps, de remettre de l'huile dans les rouages et de vérifier que la mission est réellement bien accomplie. Et donc c'est un des conseils privilégiés de l'évêque, donc avec les prêtres qui, comme le dit la théologie, sont ses collaborateurs premiers, sont attachés à la mission de l'évêque, d'annoncer l'Évangile dans un territoire donné, et donc ensemble de se saisir des différentes questions. À l'ordre du jour du Conseil de cette semaine, c'est la réforme des paroisses et des services diocésains.
Sur ce sujet-là, justement, est-ce que ça fait un moment que vous nous en parlez, presque chaque semaine au micro de Radio Présence. Est-ce que vous avez des retours de diocésains que vous croisez ici et là qui vous disent bah alors, qu'est-ce qui va se passer? On est inquiet ou on a hâte? Comment vous sentez les choses? Est-ce qu'il y a une sorte d'impatience?
Oui, une attente, mais une attente. Bon, ben voilà, les choses se passent selon l'échéancier indiqué déjà depuis plus d'un an et demi. Hein. Et donc, on est dans les clous par rapport aux différentes étapes annoncées. Et forcément, hein, c'est beaucoup plus rapide de décider les choses tout seul que de les décider dans une démarche aussi synodale que possible, avec la coopération de tous, et donc des va-et-vient, des éléments qui sont donnés, le recueil de réactions de la part des EAP, des communautés, à travers de grandes journées diocésaines ou à travers des journées plus spécifiques avec des collaborateurs plus proches, soit les prêtres seuls, comme aujourd'hui avec le conseil presbytéral, soit le conseil diocésain pastoral, soit les EAP, comme on l'a fait pour Tarbes très très récemment.
Ça, c'est important pour vous. Vous n'imaginez pas décider tout seul dans votre bureau ce qu'il faut pour l'avenir du diocèse.
C'est sans doute un peu de ma déformation sulpicienne qui veut cela, ou à Saint-Sulpice, c'est un conseil qui anime et conduit les affaires de la province dont il est responsable, un conseil de 5 membres, et le supérieur provincial est le supérieur de ce conseil, mais il anime le conseil, mais les décisions sont toujours prises à la majorité des voix, on vote, et quelle que soit la position du supérieur dans l'échange, c'est la position du conseil qu'il devra ensuite mettre en œuvre. C'est ma culture depuis plus de 25 ans, et j'avoue qu'elle imprègne beaucoup ma manière d'être évêque aujourd'hui. Alors évidemment, c'est beaucoup plus lent, parce que écouter les uns, écouter les autres, ça prend du temps, et puis parfois les uns et les autres n'ont pas non plus les avis convergents. Donc à un moment donné, il faut bien arbitrer et prendre une décision, mais pas sans avoir d'abord pris le temps d'écouter les uns et les autres.
Voilà, merci beaucoup Monseigneur Mika. C'est la fin de notre entretien. On se retrouve pour tous les diocésains qui le veulent, qui le peuvent, ce dimanche 4 mai au sanctuaire Notre-Dame de Piétat à Barbazan-des-Batte. C'est un pèlerinage diocésain, comme on le disait la semaine dernière. Allez, on en remet une couche, Monseigneur, on le redit. C'est un pèlerinage diocésain qui s'inscrit vraiment dans une démarche de pèlerin. Nous sommes cette année tous pèlerins d'espérance et nous allons de sanctuaire marial en sanctuaire marial.
C'est le premier des 5 pèlerinages diocésains annoncés, 6 si on rajoute celui programmé à Rome au mois de juin. Et évidemment, on a à cœur pendant ce week-end et ce pèlerinage diocésain à Piétat de prier pour le Saint-Père, pour l'élection du futur pape qui occupera bien, bien fortement nos pensées et nos prières.
Voilà, et on termine en indiquant que le conclave s'ouvre le 7 mai. Donc évidemment, il faut prier pour les cardinaux qui sont rassemblés, qui vont se rassembler en conclave. Merci beaucoup, Monseigneur Mika. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup. Et après la messe de mardi soir à la cathédrale pour rendre grâce pour le pape François, c'est important de tourner nos yeux vers l'avenir et d'entrer dans cette dynamique que l'on confie à la Vierge Marie.